Pauline Pucciano, La cité hantée, chapitre 13, de 2 à 3. Eleanor et Keller avaient quitté ensemble le conseil et se dirigeaient vers la demeure de Ruben pour récupérer Artus. Keller fermait parfois les yeux pour humer l'air et s'arrêtait parfois de marcher pour contempler une perspective, un rayon de lumière, une statue à demi dérobée au regard par la végétation qui la couvrait. « Je n'arrive pas à croire que je marche ici en plein jour. La haute ville est tellement belle. » Eleanor sourit. « J'ai voulu rester à la frontière jusqu'à ton retour parce que je m'y sentais chez moi. Veux-tu que nous nous installions en Hauteville ?» Keller se tourna vers elle et lui sourit. « Oui, je crois que ce serait comme de réaliser un rêve. As-tu revu tes parents ?»« Oui, je leur ai rendu visite quand Artus était bébé. Ils ne m'ont pas mal reçu, mais aucun d'entre nous n'a manifesté l'envie de renouveler l'expérience. Nos relations ont été rompues de manière définitive. » Et ont-ils revu Joris ? Non, en tout cas pas à ce qu'ils m'ont dit. Ma mère paraît me blâmer, moi, de sa disparition. Je vois. À Eleanor, ajouta-t-il après un silence, une question me perturbe. Pourquoi n'as-tu dit à personne que tu avais mis au monde deux enfants ? Elle se rembrunit et son visage serein se ferma. Je ne sais pas, dit-elle. Je ne pouvais pas en parler. Pourquoi as-tu confié Artus au chancelier qui était notre ennemi ? Je n'arrive pas à te comprendre. Pourquoi nous as-tu oubliés pendant 3 ans, Keller ? Tu as passé 3 ans sans la moindre pensée, ni pour moi, ni pour Artus, ni pour Albâtre, confortablement installé dans ta propre folie. Et maintenant tu viens me donner des leçons ? Il la regardait d'un air désolé et ne répondait rien. Cela ne faisait que l'exaspérer davantage. Tu vas sans doute me reprocher aussi d'avoir mal élevé ton fils, Keller. Je te préviens, il est capricieux, désobéissant, répondeur, et nous avons une relation fusionnelle que tu ne manqueras pas de trouver pathologique. Arrête, Eleanor. Ah, tu te souviens de mon prénom maintenant ? Oui, j'arrête. Je n'étais pas été élevée pour faire des crises de jalousie et me commettre dans des disputes conjugales. De jalousie ? Oh, je ne te demande rien, Keller. Je ne veux pas savoir dans quel lit tu as couché pendant ces 3 années où j'ai dormi seule. De toute façon, tu avais oublié jusqu'à mon existence, alors, n'est-ce pas ? C'est bien pratique. Je ne pourrais pas te le reprocher sans une odieuse mauvaise foi. » Keller reçut le coup sans ciller. « Je vais peut-être devenir amnésique, finalement, » reprit-elle encore avec la même fureur. « Je trouve ça intéressant comme statut. Je ne me souviendrai pas de toi. » Ils marchaient en silence, côte à côte, mais elle ne supporta pas la situation plus de quelques instants. « C'est le palais polychrome avec le balcon au second étage. » finit-elle par lancer d'un air cassant. « Tu n'as qu'à entrer et dire que tu es le père d'Artus. Après tout, ce ne sera pas tout à fait un mensonge. » Keller voulut la prendre par le bras et la forcer à le regarder, mais elle réagit, vive comme un serpent. « Ne me touche pas !» dit-elle de sa voix de verbe, et il se sentit immobilisé. « C'est la première fois que tu uses de la contrainte avec moi, » dit-il d'un air dur. « Tu devrais t'estimer flatté. Je risque le bannissement pour ça. » Et sans lui laisser le temps de répondre, elle lui tourna le dos et disparut. Keller prit une profonde inspiration et essaya d'utiliser l'esprit comme Naïma le lui avait enseigné, mais les papillons rouges qui voletaient autour de lui l'en empêchèrent. Rien n'était facile dans ce retour. Il était sous le charme de la haute ville et s'émerveillait de pouvoir y circuler, avec 3 ans de retard sur tous les autres. Il découvrait son fils alors qu'il avait déjà 3 ans, qu'il avait déjà appris à grandir, à parler, à vivre sans lui. Il retrouvait à Eleanor changée, il avait lui-même changé. Il s'inquiétait des enfants, d'Irene, plus qu'on ne l'y autorisait. Il ne reconnaissait dans Albâtre aucun des rêves dont il aurait voulu l'avoir pétri. C'était comme un architecte ne retrouvant pas ses plans dans la maison construite. Il se sentait dépossédé, décalé et par moments découragé. La réaction d'Eleanor ne l'inquiétait pas outre mesure. Il en avait été piqué et en éprouvait de la tristesse, mais... cela n'était-il pas inévitable ? Il faudrait bien lui apprendre qu'un enfant de ses œuvres grandissait dans un autre ventre. Il faudrait bien qu'ils se pardonnent mutuellement d'avoir survécu l'un à l'autre pendant 3 ans, et d'avoir éprouvé des joies, et d'avoir construit des choses. Mais pour l'instant, cela paraissait aussi difficile que d'apprivoiser un chafouin sans l'esprit. À Eleanor était plus sauvage et plus irrationnelle encore qu'elle ne l'avait été à leur première rencontre. Elle n'avait finalement pas tant changé. Ses réflexions amères l'avaient menée au pied du bâtiment. Comment à Eleanor avait-elle dit « Polychrome » Cela devait désigner cette gracieuse alternance d'albâtre et de cette pierre noire veinée de vert dont il ignorait le nom. Le palais entier était fait de ces deux couleurs et ressortait sur la blancheur immaculée des autres façades. Keller pénétra dans le vestibule qui menait au patio, s'arrêtant longuement pour contempler les moulures, les bas-reliefs, les délicatesses de rayons et d'ombres qui décoraient le palais de motifs changeants. Il lui semblait qu'il aurait pu vivre là, sans jamais s'ennuyer, sous de beauté comme on pouvait l'être de vin ou de musique. La silhouette de Ruben le tira de sa contemplation. Artus avait filé comme un animal indompté en direction du bassin, où la lumière s'accrochait, tremblante, à la surface de l'eau et aux écailles argentées de poissons invisibles. « Maître Keller, voilà un revenant de marque !» murmura l'ancien chancelier avec ironie. Keller sursauta légèrement et considéra un instant le vieillard. Un visage tavelé, creusé de rides nombreuses et sinueuses, un visage mobile et très expressif, semblait servir d'écrin à un regard perçant, pénétrant comme celui d'un rapace. La pierre frontale, inerte, achevait de le faire ressembler à quelque divinité multiforme et terrible. Vous m'excuserez, monsieur, si je n'ai pas de temps à perdre en épigrammes et en énigmes. J'ai 3 ans à rattraper et vous ne faites pas partie de mes priorités. Loin de moi l'idée de me moquer de vous. Je suis simplement heureux de rencontrer un personnage légendaire. Un personnage que vous n'auriez pas même regardé dans les yeux il y a 3 ans avant de signer son arrêt de mort. « Par les guildes, voilà la langue de la vengeance que nous n'entendons plus parler ici. »« Ma mémoire est restée fraîche quand celle des autres s'est endormie. »« J'ai beaucoup de respect pour le père d'Artus et certainement beaucoup de compassion pour le compagnon d'Elénor. »« Vous lui avez fait rentrer les griffes, par je ne sais quel artifice, mais les miennes restent sorties. »« Vous avez publiquement alerté la haute ville sur les dangers de la Révolution. »« Vous étiez et êtes resté un ennemi. » « Plus que vous ne pensez, murmura Ruben. Mais tout cela est loin à présent, et l'histoire a eu raison de mon conservatisme. »« Artus !» appela Keller. « Nous partons !» Ruben eut un sourire amusé. Il attendait, sûr de lui, que l'enfant fît semblant de ne pas entendre et donna à son père une leçon d'humilité. Mais, à son grand étonnement, Artus n'en fit rien, sortit immédiatement du bassin où il avait plongé les mains et accourut vers son père. « Je pense que votre observation de mon fils a assez duré, » dit Keller. « Vous pourrez rendre votre rapport à Eleanor si vous le souhaitez. » Ruben hocha la tête silencieusement. Son air amusé s'était figé, crispé sur ses lèvres, mais il ne souffla mot. Keller fit avancer Artus devant lui, avec une douceur ferme qui témoignait de son habitude des enfants jeunes. Ruben songea à cette histoire d'enfant spiritualiste rescapé et se promit d'en apprendre davantage sur Keller. La partie serait rude, mais, à la fin, il réussirait bien à lui faire changer de ton. Ce qu'il avait appris sur l'enfant se monnaierait tôt ou tard, au prix fort. Keller et Artus sortirent prestement du palais. « Maman n'est pas là ?» constata Artus. « Non, en effet. Elle s'est fâchée et elle est partie. »« Fâchée contre toi ?»« Oui. Elle ne se fâche jamais contre toi ?» Artus rit. « Aussi, elle se met à parler sans s'arrêter. »« Et que dit-elle ?» Le petit garçon haussa les épaules. « Je ne l'écoute pas quand elle fait ça. J'attends que ça passe. » Keller éclata de rire. « Où veux-tu aller ? » demanda-t-il. « Je ne connais pas la ville et j'ai envie de la découvrir. Y a-t-il des endroits où tu n'es jamais allé ?»« Oui, j'aimerais bien aller tout en haut, tout en haut. Maman dit toujours qu'il y a trop de marches. »« C'est d'accord, » dit Keller, et ils se mirent en marche. Les jambes d'Artus étaient si petites qu'il était obligé de trottiner à côté de son père. Mais leur équipage parvenait toutefois à avancer de manière régulière. De nombreux passants les saluaient, mais Keller avait adopté l'attitude qu'il prenait jadis en ville basse pour décourager les badinages, et il lui semblait qu'elle fonctionnait toujours. Alors qu'il traversait une place qui donnait sur un jardin aux grilles monumentales, Artus s'arrêta net et fit signe à son père de regarder dans un arbre. Un énorme iguane, vert et gris avec des reflets rouges, était en train de s'installer sur une branche. Il arborait une crête dorsale comme un dragon d'un autre âge. « Regarde ses mains !» murmura Artus, en désignant les 5 doigts griffus, dont, étrangement, l'annulaire était le plus long. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un iguane, je crois, » dit Keller à voix basse. « Je n'en ai jamais vu avant. » Ils s'approchèrent des grilles, et comme deux enfants, les yeux grands ouverts et sur la pointe des pieds, ils tendirent la tête vers le ciel. « Viens !» prononça soudain Artus d'une voix étrange. Ligwen tourna la tête vers l'enfant, et Keller observa, émerveillé, ce manège. « Fais-le descendre !» murmura-t-il. Et Artus, parlant toujours de son étrange voix de verbe, guida l'animal docile jusqu'à terre. Il vint jusqu'à la grille, dont les barreaux étaient cependant trop étroits pour le laisser passer, mais Keller et Artus s'amusèrent à le toucher, en poussant de petits cris, parce qu'il était froid et que sa peau ressemblait par trop à de la peau humaine. Ils mirent plusieurs minutes à reprendre leur route. « Et les chafouins ?» demanda Keller. « Il y en a toujours ?»« Oh, je les adore, mais maman ne veut pas que j'aille jouer avec eux dans les faubourgs. » « Elle a bien raison. Moi, je ne sais pas leur parler comme tu le fais. Et quand j'étais petit, ils me griffaient et me mordaient sauvagement. » Cela fit rire Artus. « Maman sait leur parler aussi. Vous avez beaucoup de chance d'avoir appris à utiliser l'esprit aussi jeune. Moi, cela ne fait que quelques années. » Leur promenade les emmena tout en haut de la cité d'Albâtre. Chemin faisant, tout en gravissant ses marches, certaines blanches, secrètes et noyées de verdure, d'autres monumentales, tout en passant devant ses musées de plein air et ses jardins, ils échangeaient quelques paroles rares, mais communiaient par le regard, par le désir de voir, par le plaisir de découvrir. Quand j'étais petit garçon, je rêvais de visiter cette ville avec mon père, et tu vois, c'est mon fils qui me l'a fait découvrir. Où allons-nous habiter? Tout en haut? Je ne sais pas, il faut trouver. Et nous aurons des statues, des iguanes, des oiseaux légendes. Et un bassin avec des carpes argentines. Oui, un bassin avec des carpes. Et pour mon frère et ma sœur? Keller s'immobilisa et considéra Artus, se souvenant soudain qu'il n'avait que 3 ans. Ah, Eleanor n'avait pas menti concernant ses capacités de perception, qui frisit presque la divination. Que sais-tu de ta sœur? Elle est encore tranquillement enroulée dans le ventre de sa maman. Est-ce qu'elle vivra avec nous? Non, je ne pense pas. Sa maman et ta maman ne le voudraient pas, et moi non plus. Mais je jouerai avec elle. Oui, tu la verras. Il faut que tu rencontres tous les enfants. Ils savent utiliser l'esprit, eux aussi. Et ils sont très, très sérieux, comme toi. Et mon frère qui n'a pas de nom? Je ne sais pas où ils l'ont emporté. Dans le noir, dans le froid, dans le silence. Il n'y a pas de mots dans sa tête. Est-il mort? Non, il est comme toi tu étais, loin derrière des murs, mais pas mort. C'est ta maman qui m'a rappelé. Crois-tu qu'elle pourrait le rappeler aussi? Moi, peut-être, parce que je le connais mieux. Mais cela peut être dangereux, il vaudrait mieux attendre un peu. Là, regarde! C'était un petit palais au fond d'un jardin négligé. Il paraissait n'avoir que quelques pièces, mais il était un exemple parfait de l'architecture d'Albâtre, un porche avec quelques arcades, des formes géométriques adoucies par des ciselures sculptées, un petit bassin dans un coin du jardin où quelques statues de femmes semblaient s'ennuyer. Artus ferma les yeux et projeta son esprit.
« Il n'est pas occupé, c'est chez nous, dis, on peut aller chercher l'iguane. »
À Eleanor ne s'inquiéta pas vraiment de leur long retard. Ils avaient besoin de se connaître et cette dispute était peut-être une bonne occasion. Elle regrettait son emportement, cependant. Tout lui paraissait confus, comme si elle avait vécu 3 années dans une sorte de rêve et qu'elle s'éveillait à présent. Retrouver Keller avait été comme de retrouver la terre ferme, et elle se sentait désorientée, comme après des années de roulis perpétuels. Elle se mettait à la place de Keller et se regardait elle-même, et la cité, avec des yeux neufs, dont la dernière image était celle de la nuit de la Révolution. Et en son fort intérieur, où elle ne se faisait pas de concessions, à Eleanor devait reconnaître qu'il n'avait pas tort. Là était d'ailleurs sans doute la raison de sa colère tout à l'heure, la sensation désagréable qu'il avait vue juste. Le gouvernement provisoire de la cité s'enlisait dans des demi-mesures qui ne satisfaisaient personne. Elle n'avait pas déployé toutes les ressources possibles pour retrouver son premier fils. Certes, elle avait fait preuve de bonne volonté et d'aucuns auraient pu dire de ténacité, mais tout au fond d'elle-même, elle savait ce qu'elle avait fait. Elle s'était repliée sur Artus, elle avait oublié tout le reste, elle n'avait vécu que pour et par lui. L'avenir de la cité, le sauvetage de son premier-né, elle n'y avait pensé qu'en surface. Elle ne leur avait pas consacré toute son énergie, elle n'en avait pas fait son œuvre. Son œuvre, durant ces 3 années, avait été d'élever Artus et elle n'avait rien fait d'autre. Aujourd'hui, sa toute petite enfance prenait fin, et elle reprenait conscience peu à peu de la complexité du monde ambiant. Elle avait adoré ce face-à-face charnel et hors du monde avec son enfant. Elle s'était oubliée dans les premiers mois et perdue de contemplation, d'amour, de partage. Elle avait regardé le monde tourner à travers une vitre, ne lui consacrant qu'une attention intermittente, superficielle, secondaire. Son cœur battait, ses sens percevaient, son esprit fonctionnait pour lui seul. Devait-elle avoir honte de cet oubli de tout ? Toutes les mères ressentent-elles au plus profond d'elles-mêmes ce sentiment ambivalent, cet amour qui exclut tous les autres ? Que répondre à la terrible question de Keller ? Pourquoi n'as-tu dit à personne que tu avais mis au monde deux enfants ? Plutôt que de se fâcher, elle aurait pu admettre qu'elle avait accompli ici un acte de déni digne des manuels de psychologie de la haute école. Elle ne pouvait probablement pas gérer ni supporter une seconde disparition. Il était déjà bien assez difficile de l'avoir perdu, lui. Elle avait relégué ce problème à plus tard, et ce plus tard devenait aujourd'hui pressant. Par faiblesse, elle avait perdu la raison, comme il avait perdu la mémoire, et ce faisant, ils avaient tous deux perdu leur enfant. Cet enfant qu'ils n'avaient pas assez recherché était leur faute. Ils ne cesseraient jamais de réparer cette faute. Lorsque Keller et Artus revinrent au soir enchantés l'un de l'autre et de la maison qu'ils avaient trouvée pour eux trois, à Eleanor sut qu'elle était pardonnée. Ils passèrent une soirée légère et agréable, puis, quand Artus fut couché, ils se parlèrent longtemps, sans phare, face à face, même de la petite fille en gestation. Ils comprirent mutuellement leurs faiblesses, et, comme les pièces d'un antique mécanisme qui brusquement s'enclenchent et se remettent en marche, ils se réunirent pour travailler au même mouvement. Le lendemain, le gouvernement provisoire se séparait et les premières élections de la République d'Albâtre étaient annoncées. Aumont ne s'y présentait pas et promettait de quitter les affaires dès que la République aurait vu le jour. Keller et Eleanor s'installaient en haut de la cité et les opérations d'éradication des papillons rouges dans le quartier nord commençaient. Une nouvelle ère semblait s'ouvrir pour Albâtre.